réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et si vous nous rejoignez, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible en ce mardi 3 mai 2016. Nous sommes avec l'historien Michel Pierre qui nous parle du Sahara. Hier, il nous a parlé du Sahara, du grand récit du Sahara à l'époque des conquêtes coloniales. Aujourd'hui, on va parler du temps des mythes, celui des écrivains, des peintres, des cinéastes. Bref, le Sahara comme un espace pour l'imaginaire. En deuxième partie, je serai avec le chroniqueur Alain Chiffre. Il vient de sortir un livre aux éditions Le Dilettante. Sympa, sympa. C'est vraiment à mettre entre guillemets. Vous verrez tout à l'heure, aux alentours de 6h15, pourquoi.
Une traversée du Sahara avec Michel Pierre.
Une traversée du Sahara avec l'historien Michel Pierre. Bonjour.
Bonjour.
Et aujourd'hui, le temps des mythes. Le Sahara qui devient, qui va jouer un rôle très particulier dans l'imaginaire des écrivains, des peintres, des cinéastes, des journalistes. On parlera sans doute des orientalistes, mais ça commence avec Fromentin, je suppose.
Oui, ça commence avec un certain nombre de voyageurs qui vont être fascinés par cet univers, qui le sont aussi en termes de peinture dans le cas de Fromentin, et qui sont attirés par ces espaces. Hein. Guy de Maupassant, par exemple, évoquait cette envie d'aller toujours plus loin vers le sud, ce qui fait que le Sahara va en quelque sorte abreuver trois domaines, la mystique, un certain nombre de mythes et un certain nombre de mythologies. Ça était le grand espace fantasmé et fantasmagorique de la colonisation française.
Effectivement, il ne faut pas oublier le carrefour sacré, Théodore Monod, ou même Charles de Foucault, puisque avant d'être l'homme pieux, l'homme de la spiritualité au Sahara, c'était d'abord un militaire.
Oui, Charles de Foucault a fait partie de ces grandes figures qui sont à la fois sur la mystique, à la fois sur les mythes, à la fois sur les mythologies. À lui-même, il est effectivement, comme vous dites, une figure militaire de la présence française en Algérie. Puis après sa conversion, devenu à la fois prêtre et ermite, il va être présent à Beni Abbès, non loin de la frontière marocaine, avant d'être en quelque sorte installé en 1905 au cœur du Hoggar, à Tamanrasset, où il est à la fois l'ancien militaire, le savant qui va faire un extraordinaire dictionnaire français Touareg, et l'ermite dans sa recherche spirituelle. Il va vraiment être quelqu'un dont on va parler avant la Première Guerre mondiale, mais dont on va parler aussi après sa mort en 1916. Il est effectivement assassiné en décembre 1916. Alors c'est une mort à l'époque qui apparaît qui apparaît peu dans la grande hécatombe de la Première Guerre mondiale, mais après la paix, petit à petit, la figure de cet homme va être véhiculée par des articles, par des romans, par un film en 1936.
Et même récupéré, on peut le dire, Michel Pierre.
Il va même être récupéré, en particulier sous le régime de Vichy, dont la promotion Saint-Cyr en 1942-43 s'appelle Charles de Foucault. Donc c'est une figure qui va en quelque sorte être, et ça plaisait beaucoup au régime du maréchal Pétain, va être une sorte de synthèse de la France, à la fois la synthèse de la France, l'image de la France catholique avec le prêtre prêtre ermite tué, alors on disait pour sa foi, à Tamanrasset en 1916, et puis en même temps le savant, l'explorateur, l'homme qui à un moment était dans l'armée républicaine. Donc en rassemblant ces différentes figures qui sont symboliques de la France que cherchait Pétain, mais qui est également présente avant. Quand un film qui s'appelle L'appel du silence est tourné en 1936, ce film est fait avec une souscription nationale, c'est-à-dire c'est les Français qui le souhaitaient, qui vont en quelque sorte être des centaines de milliers de Français, les producteurs de ce film. On est vraiment sur une image forte de l'imaginaire français autour du Sahara.
Alors, je voudrais traverser le Rif, atteindre Fès, franchir l'Atlas, l'Ouest Dra, et contempler notre désert. Ensuite, revenir par la Moulouya, s'il y a moyen.
Oh, quelle splendide aventure!
Mais c'est plus un rêve, un fantasme ou une envie de connaître le Sahara et les peuples du Sahara.
Chez Charles de Foucault, il y a une vraie volonté de connaissance. Et chez ceux qui font aussi des articles ou des ouvrages sur eux, il y a cette curiosité scientifique. Mais il y a aussi vers le Sahara, par exemple, celle des ingénieurs, des techniciens. La France va rêver de faire, ce qu'elle fera du reste, la conquête automobile du Sahara. Quand on a cet espace, on rêve de le conquérir par des moyens mécaniques. Alors très vite, malgré tout, on va se rendre compte que le transsaharien dont nous parlions était peut-être un objectif difficile à atteindre.
Mais ce rêve va durer un siècle, précisez-vous dans le livre oui, Sahara, le grand désert, de Napoléon III jusqu'au régime de Vichy.
Oui, jusqu'au bout, on a rêvé de ce qui aurait été un exploit extraordinaire, mais on continue parfois aussi, dans un autre contexte, à rêver d'une continuité comme ça du chemin de fer. Mais ce que la France va réussir, mais d'autres pays auraient pu le faire aussi, c'est véritablement la conquête automobile avec les célèbres auto-chenilles Citroën, la croisière des sables et la croisière noire. Et puis ensuite, ce qui marque bien le contrôle d'un territoire, c'est que vous allez avoir, juste avant la Seconde Guerre mondiale, des liaisons hebdomadaires par autocar avec des couchettes et qui vont vous assurer un contact régulier entre Alger et le centre de l'Afrique, entre Alger et le Nigeria anglais par exemple, par la route. Donc et puis vous avez l'arrivée du tourisme. Le tourisme, c'est vraiment le stade ultime du colonialisme. Quand vous avez le tourisme quelque part, ça vous signifie vraiment qu'un pays le contrôle, et le contrôle dans la paix. Et vous avez le premier guide touristique du Sahara qui va sortir dans les années 1920, et vous allez avoir comme ça de plus en plus de et là on n'est plus en présence de militaires, des civils qui vont traverser régulièrement le Sahara, y compris par la voie aérienne, où cet espace va être franchi. Et justement, l'avion va donner naissance encore à une autre mythologie qui va être celle de l'aéropostale. Et là, vous avez les figures de Mermoz et de Saint-Exupéry, qui a quand même beaucoup écrit sur le Sahara aussi.
Terminons cette émission, l'émission d'aujourd'hui, cet épisode par justement le roman saharien Jules Verne, de 1905, Jules Verne avec l'invasion de la mer. On peut terminer ça, si vous voulez bien, avec Tintin, le crabe aux pinces d'or, c'est-à-dire en 1940.
Dans le cas de Jules Verne, c'est de faire allusion avec l'invasion de la mer, à un rêve aussi, un autre rêve technique qui a été de créer une sorte de mer intérieure au centre du Sahara. Dans le cas de l'exotisme et de l'érotisme, on est chez Pierre Benoît juste avant la Première Guerre mondiale avec le roman L'Atlantide qui donnera naissance aussi à plusieurs adaptations cinématographiques.
Est-ce qu'il n'accompagne pas ce mouvement d'orientalistes déjà qui sont installés
Je dirais qu'il le conclut d'une certaine façon. Quand on a Pierre Benoît en 1921 avec l'Atlantide, un certain nombre de peintres orientalistes sont toujours présents, mais les œuvres d'Étienne Dinet, par exemple, sont déjà bien connues. Donc on est sur... ça appartient à ce grand mouvement orientaliste qui se poursuivra avec les romans sahariens, par exemple, de Joseph Perret, qui est un auteur un peu oublié aujourd'hui, mais qui va énormément séduire le grand public et particulièrement celui des adolescents, avec les débuts de la Bibliothèque Verte chez Hachette, où vous avez tout un ensemble comme ça de livres qui vont rencontrer une audience absolument extraordinaire. Donc vous avez une construction qui... finalement, nous l'évoquions avec Charles de Foucault, va donner ce mysticisme autour du Sahara, avec Jules Verne qui fait rentrer la technique, qui fait rentrer ce fantasme aussi de la femme saharienne, et puis qui se conclut... mais il y a d'autres ouvrages par la suite. Vous évoquiez Hergé et le Crabe aux pinces d'or. On est en 1940. Et finalement, relire aujourd'hui le Crabe aux pinces d'or, c'est retrouver aussi une synthèse d'un regard européen. Hergé était belge, mais abreuvé de tout un ensemble de cultures, en particulier françaises.
Publicités qui appelaient justement à ce tourisme et qui aujourd'hui sont des posters vintage que tout le monde s'arrache.
Ah bah oui, là, vous avez des publicité sur l'utilisation du Sahara, on trouve même une utilisation du dromadaire et du décor du Sahara pour une publicité pour le chocolat au lait. Quand on imagine la résistance du chocolat au lait à 50 degrés à l'ombre, simplement c'est ce que vous dites, c'est l'orientalisme. Donc le chocolat c'est vaguement orientaliste, c'est vaguement ailleurs, même si ça vient d'Amérique du Sud, mais c'est pas très grave pour un publicitaire. On met ça au milieu du Sahara, puis ça séduira toujours le public.
En tout cas, vous parlez d'autres livres qu'on a envie de lire, par exemple l'Appel du Hogar en 1935 par Roger Frisson-Roche, on a envie de lire. Alors c'est quoi? C'est plutôt l'aventure parce qu'il est alpiniste, il est guide de haute montagne, c'est peut-être là une véritable curiosité de découvrir le Hogar et c'est plutôt un livre d'aventure. J'imagine que c'est un livre d'aventure, mais peut-être que vous allez me contredire, Michel-Pierre.
Non, Roger Frisson-Roche est effectivement l'un des grands romanciers du Sahara. Il l'est surtout après la Seconde Guerre mondiale, avec des romans qui se lisent très bien aujourd'hui encore, La Piste oubliée, La Montagne aux Écritures. Et c'est vrai que lui, montagnard, guide de Chamonix, qui fera un certain nombre de sommets du Hogar comme alpiniste, et qui surtout... avec un talent assez rare, donnera à voir un certain nombre de réalités avec, là, un regard déjà, alors j'ose pas dire d'ethnologue, mais au moins Frisson-Roche aura une curiosité, une façon d'aborder ce monde qui ne manque pas d'éléments de sympathie par rapport à ce monde touareg, qui était moins présent chez des auteurs qui l'ont précédé. En 1907, on va proposer aux Parisiens, à nos gens, de venir rencontrer les Touaregs, c'est-à-dire un certain nombre de personnes, hommes et femmes, qui ont été recrutés, alors dit la publicité, au Sahara, on va vous montrer les Touaregs, ceux qui ont justement, qui sont les frères ou les fils de ceux qui ont massacré Flatters et d'autres. Sauf qu'on a aussi, alors donc on a à nos gens, des tentes qui sont dressées, des dromadaires qui sont présentés, des indigènes comme on disait à l'époque, qui sont présents. Les femmes jouent du violon à une corde, font la cuisine. « C'était assez classique à l'époque, de faire venir comme ça des groupes, pourrait-on dire, venant du monde entier et présenter à ceux qui pouvaient pas faire le voyage. Si ce n'est que en 1907, il y a quelqu'un qui va aller voir ces soi-disant Touaregs du Sahara, qui est l'un des grands personnages de l'histoire militaire du Sahara, qui était le général Lapérine, qui va voir un peu, puisqu'il lit sur les affiches les Touaregs du Sahara à Paris. Il se rend en 1907 et il écrit à l'un de ses amis qu'il est allé voir ces Touaregs. Alors, ce qui l'a frappé, c'est que aucun de ces soi-disant Touaregs ne parlait le moindre mot de Tamashek, donc de la langue de
berbère des Touaregs.
Il le précise dans son courrier, même pas les salutations. Par contre, il y a quelqu'une qu'il reconnaît dans le groupe qui est là, qui est une pensionnaire du bordel d'Insala, et qui a été recrutée pour figurer ces Touaregs. En fait, ces soi-disant Touaregs venaient de régions plus proches du Mzab, du pays Chamba, et n'avaient pas grand-chose à voir avec la réalité du Hogar central. Mais on est dans l'ordre d'une forme de spectacle qui font qu'un certain nombre de Parisiens sont allés voir ces terrifiants Touaregs qui s'étaient opposés à la présence française pendant des batailles terribles.
Merci beaucoup Michel-Pierre, on se retrouve demain pour continuer cette traversée du Sahara, et demain on parlera de l'or noir justement, et du Sahara d'après-guerre. À demain.
À demain, merci.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Et mon invité aujourd'hui, Alain Chiffre. Alain Chiffre qui revient comme s'il n'avait pas quitté la dernière page de l'Express ou longtemps. Il est officier pour décrypter l'air du temps, toujours à contre-courant, avec une verve ironique qu'on retrouve intacte dans ce recueil de chroniques inédites que vient d'éditer Le Dilettante, avec comme titre « Sympa ». Pourquoi ce titre, Alain Chiffre ? Bonjour.
Bonjour. Et sympa, parce que c'est un mot qu'on entend tout le temps, les restos sympas, les films sympas, c'est...
Sympa, votre nouvelle copine.
C'est un mot qui me frappe et moi qui m'énerve. Parce que il indique que c'est pas des choses vraiment bien, c'est pas des choses géniales, c'est pas des choses. Mais bon, c'est cool quoi, en gros, et c'est mou. Enfin, c'est un concept. Je trouve que c'est un concept mou, sympa. Ta paire de chaussures est sympa. Alors, est-ce que c'est vraiment bien? Ça, c'est sympa. Enfin, bon, et ça m'a semblé synthétiser un peu ce que je reprochais à l'époque. C'est cette espèce de gentillesse banale et automatique qui sévit un peu partout.
Et c'est devenu un automatisme d'ailleurs de dire sympa.
Ah ben tout à fait, oui. Mm-hmm. Comme tout à fait d'ailleurs. Ça...
On va en sortir.
Mais alors des gens me disent à propos de mon livre qu'il est sympa. Alors
bon. Cela ne l'a pas ouvert, hein, je crois. Je soupçonne qu'il n'est pas ouvert votre livre. Non, tout ça pour dire que vous êtes assez, comme vous l'avez été très longtemps durant votre carrière de chroniqueur, vous êtes assez ironique.
Je pratique beaucoup l'ironie. Je pratique beaucoup la distance. J'ai beaucoup de mal. Être autre chose qu'un observateur. En fait, je suis pas doué pour l'action, quoi, en gros.
Alors, vous êtes un très bon observateur, Alain Chiffre, et c'était d'ailleurs l'objet de ma première question. Vous vous mettez où pour observer justement les nouvelles tendances, comme on dit, de notre société, les nouveaux parlers, les nouvelles expressions. Et comment vous faites pour travailler? Est-ce que vous êtes isolé dans votre maison à la campagne et vous entendez tout ce qui se dit à la radio, tout ce qui se montre à la télévision, vous lisez la presse, les comptes rendus de spectacles,
et vous... En gros...
Ouais, c'est un peu ça. Est-ce que vous êtes isolé, d'abord?
Ah, complètement, oui. Je suis isolé. Mon bureau, c'est une ancienne chambre de bonne au 7e étage, alors que j'habite au 1er, où personne, bien sûr, n'a le droit de rentrer. Et là, j'écoute pas la radio... Je regarde pas la télévision, je n'ai pas d'ordinateur là-haut, mais quand je redescends, je me rattrape, je lis les journaux, je mets la télévision sans le son parce que je trouve ça bien meilleur qu'avec les paroles. Et puis, d'une façon générale, je me colle aux gens, c'est-à-dire que je m'appuie sur mes défauts. Bon, je suis bigleux, donc je mets le nez sur les choses. Je suis attentif aux détails. Je suis à moitié sourdingue, donc je tends l'oreille. Bref, tous mes défauts me servent et me permettent finalement d'observer, sauf évidemment l'éventualité de recevoir une baffe si je suis trop indiscret, si je m'approche trop des gens. Mais souvent, les gens me disent « Mais comment tu enquêtes ?» En fait, je n'enquête jamais, je me contente de me promener et de fureter. Parce que je pense que l'esprit d'une époque, c'est dans les détails. Je ne suis pas le premier à dire ça, hein.
Ouais. Mais comment répertorier ces détails ? Aujourd'hui, on peut passer par des moteurs de recherche pour savoir quelle est l'expression qui revient le plus souvent.
Surtout pas.
Ouais. Surtout pas.
Ah non.
Alors pourquoi pas la chiffre ?
Je crois totalement à la subjectivité. Internet, parmi il y a ses qualités et parmi ses défauts, il y a l'exhaustivité, la recherche d'avoir toujours plus d'informations. Et ça, c'est une calamité, hein. D'ailleurs, on le voit bien dans les histoires de terrorisme. Il y a trop de données. On ne sait plus faire le tri. Moi, je fais le tri d'avance en ne me fiant jamais avec des recherches comme ça, des exhaustives. Mais au hasard, je crois beaucoup au hasard. Il y a des trucs qui ressortent. Il y a des mots. Brusquement, il y a un mot qui est à la mode. Pas forcément qui est à la mode, je veux dire, qui est utilisé par les mondains, etc. Mais un mot qui apparaît brusquement, et ça, je repère beaucoup. Par exemple, j'ai remarqué qu'il y a à peu près un mois est apparu le mot glaçant. Et maintenant, il y a un glaçant partout dans les critiques de télévision, etc. Une approche glaçante. Et il y a des mots, tout d'un coup, qui prennent. Et qui sont le signe d'une époque, et ça, j'adore ça.
Alors, quand vous dites c'est le signe d'une époque, par exemple, aujourd'hui, dans quelle époque vivons-nous, Alain Chiffre ? C'est une époque qui est dans le cool, pour qui tout se vaut, pour peu qu'on soit gentil. C'est quoi ? Comment vous analysez cette époque à partir de ces données, de ces choses vues et repérées ?
Moi, je trouve que c'est une époque, personnellement, que je trouve assez sinistre. Justement parce qu'il y a cette fausse gaieté, enfin, il y a cette espèce d'hypocrisie qui fait que tout le monde, on croit à la gentillesse, alors que la brutalité la plus ignoble règne partout. Un truc frappant, par exemple, prenons les cellules d'action psychologique.
Ouais.
Alors, les cellules d'action psychologique, c'est merveilleux, c'est formidable. Quand il y a des traumatisés, il y a des blessés, des choses comme ça. Mais vous voyez que quand un train, un RER est bloqué en gare à Lyon-Perrache, par exemple, et que les gens doivent passer 5 ou 6 heures à dormir sur leur siège avec les gamins qui braient partout, on leur envoie une cellule d'action psychologique. Avant, bon, on se débrouillait un peu tout seul, c'était un désagrément. Quand les voitures sont bloquées par la neige, cellules. Il y a un monde cellulaire qui s'est développé. Et c'est assez typique de l'époque. C'est-à-dire qu'il y a les choses graves et les choses pas graves, mais on les confond dans une espèce de continuum qui fait qu'on n'arrive plus à se repérer. Moi, je pense que la morale, parce que tout ça, il s'agit de morale, il s'agit d'être gentil, hein. Je pense qu'il y a une laïcité de la morale. C'est-à-dire que la morale devrait être réservée à la sphère privée et aux choses importantes autour de soi qui concernent les proches, mais qu'en aucun cas, elle se glisse absolument partout et traîne dans la rue et oblige les gens. Maintenant, si vous ne dites pas bonne journée...
À n'importe quelle heure de la journée, d'ailleurs.
À n'importe quelle heure de la journée. Ça m'a frappé. Alors ça, bon, vous me direz, je suis peut-être un mauvais coucheur, peut-être pas au départ, mais ça m'a exaspéré quand les boulangers se sont mis à me dire bonne journée, parce que je vis à Paris depuis très longtemps, et je suis tellement habitué à la mauvaise humeur des commerçants que ça m'a complètement perturbé. Alors je m'y suis fait. Bon, ils me disent bonne journée, en même temps ils ont installé ces espèces de machines où il faut mettre de la monnaie et qui vous rendent la monnaie là, quand on achète du pain. Moi, je ressors immédiatement. Je vois un contact humain. Enfin bon, maintenant, faut mettre des pièces dans un truc. Mais alors, ce qui est frappant dans cette histoire de bonne journée, c'est que les clients, maintenant, disent bonne journée aux commerçants. Au départ, c'est juste un geste aimable du commerçant. Maintenant, les clients se sentent obligés de dire bonne journée. Et tout le monde se dit bonne journée dans tous les coins. Bonne journée, bonne journée. Alors ça, c'est sympa. Voilà. Et bon, je suis peut-être un peu mauvais coucheur, mais au bout d'un moment, ça m'énerve.
Alors, Alain Schiff, tous ces textes réunis par le dilettante dans ce
réunis livre... Réunis, enfin, c'est pas seulement un recueil de chroniques, hein, c'est... il y a un continu.
Bien sûr.
Bon, ça se suit, oui.
Ouais.
Mais ça pourrait être dans n'importe quel sens, d'ailleurs.
Mais vous auriez aimé les publier dans une revue? Parce que tout ça, c'est inédit, hein.
Ah oui, tout est inédit.
Vous auriez aimé les publier dans une
revue? Pourquoi vous me proposez quelque chose? Vous avez un plan où je pourrais les publier? Non, mais oui, bien sûr, j'aurais aimé.
Ouais.
Oui, oui, moi je suis pour les choses doivent être publiées quand elles le peuvent.
Ouais. Non, mais parce que la forme, ça reste une forme de chronique quand même. On peut
oui, c'est des chapitres courts, premièrement, et deuxièmement, qui peuvent être mis à peu près dans n'importe quel ordre. J'ai toujours tendance à travailler comme ça, c'est pour ça que j'ai rédigé des dictionnaires, des anthologies comme ça. J'aime bien quand travailler par fragments.
Et le fait qu'aujourd'hui, alors que vous avez été tellement célèbre à l'époque, vous étiez au Nouvel Obs, puis à l'Express, le fait qu'aujourd'hui, vous n'avez aucun news magazine, comme on dit ça aussi, depuis quelques jours, c'est un signe des temps. On trouve que vous êtes... Un peu mauvais coucheur, vous disiez, mais disons que quelqu'un qui n'aime pas le progrès, pas trop. J'ose pas dire réactionnaire, mais bon.
Je suis pas réactionnaire, simplement je réagis à des choses. Non, je suis pas réactionnaire d'ailleurs, parce que, par exemple, sur le... Je crois au progrès technique, je déteste... J'aime bien l'écologie dans certaines limites, mais vraiment, des fois... Non, ce qu'il y a, c'est que moi, je n'ai jamais cherché... Je vais résumer d'un mot. Mmh. Je suis un évitiste. Qu'est-ce qu'un évitiste? C'est un écrivain américain des années 20 ou 30 qui a fondé cette doctrine. L'évitiste consiste à éviter de faire des choses. Et par exemple, il a écrit un livre qui est illustré. On voyait un type assis par terre dans une pièce entièrement nue, le dos au mur. Il y a marqué en dessous évitant de répondre au téléphone, évitiste évitant de lire le Time.
Et qu'est-ce qu'évite Alain Schiff?
Alors, ce que j'évite, c'est moi de courir après les gens, de proposer des trucs. J'attends qu'on me propose quelque chose. Sinon, je suis parfaitement tranquille.
En tout cas, vous êtes à votre place ce matin. D'ailleurs, on va terminer par une de vos chroniques extraites, donc un texte, donc plutôt extrait de Sympa.
Nous vivons une révolution, c'est entendu, mais curieusement, ce monde où on nous simplifie la vie au point de la changer est également celui où on fait tout soi-même. J'entrais l'autre jour dans ce qui ressemblait à une lèverie automatique et qui était un bureau de poste. J'espérais envoyer un colis en recommandé avec accusé de réception. Il y a seulement 10 ans, un domestique s'en occupait. C'est venu quelque chose comme réciter la Torah sur un pied ou retenir la table des 7, une tâche impossible. Heureusement, il y avait cette fille avec une espèce de gilet. Pareil à un maître nageur, elle m'a montré tous les gestes, comment peser, faire de la monnaie, payer, fabriquer des étiquettes, etc. Je la remercie avec effusion. De ce côté, elle avait l'air satisfaite de mon zèle. Ses yeux bleus rayonnaient l'empathie. Elle m'a proposé une de ces formations pour des tâches qu'on refusait autrefois aux vulgaires, comme trier le courrier dans un train de nuit. Cette fille m'avait coaché pour le compte. Elle m'a souhaité bonne journée. Alors, puisque ici aussi, il faut faire tout soi-même, en gros, la moitié du boulot. C'était un autre jour et possible, le réveil culturel quotidien pour les lève-tôt, à retrouver sur franceculture.fr pour la réécoute en ligne ou pour s'abonner au podcast de l'émission. Préparé par Anaïs Isebert et Pascaline Bonnet, Un autre jour est possible est une émission de Tefik Hakem réalisée par Thomas Duterre avec ce matin à la technique Juliette Delperou.
Alors, pour rentrer chez vous à Alain Schiff, ça va être très sympa. Vous allez suivre ces flèches et puis ensuite, en bas, il y a un numéro que vous pouvez appeler pour qu'il y ait un taxi. Et puis, ça ira comme ça, ça va être sympa.
Très bien, merci.
Revenez quand vous voulez. À bientôt.
D'accord.
Bonne journée. On se retrouve demain.
Au revoir.